Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Comment maintenir une bonne santé mentale? C'est le sujet, le premier sujet que nous abordons dans cette émission. Aujourd'hui, vous savez, les problèmes de la vie, le stress, les soucis, les problèmes d'argent, tout ça, ça peut affecter d'une manière ou d'une autre notre santé mentale. Alors, que faire pour maintenir une bonne santé mentale? Chaque jour, on en parle aujourd'hui avec nos invités, le professeur Okitundu, neuropsychiatre, et professeur Joachim Mukwa-Webuel, psychopathologue. Dans la seconde partie de cette émission, on va parler de tracasseries policières sur la route. Comment lutter contre cela? Jean Rémy Nganga, président de la Commission nationale des préventions routières, sera notre invité à partir de 11h05 de Kinshasa. Alain Goy à la mise en onde. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Assisté Bar Céleste Massoudi, au micro, jeudi Daniel Kachama. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Encore une fois, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien. Au Capi Service, aujourd'hui, nous allons parler de la santé mentale. Comment maintenir une bonne santé mentale? Nous avons en ligne le professeur Okitundu, Daniel Okitundu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neuropsychiatre. Alors, chaque jour, nous sommes confrontés, on a des problèmes. Je disais tout à l'heure que les problèmes de la vie, le stress, les soucis, les problèmes d'argent, les déceptions, les frustrations, les moments difficiles sur le plan personnel ou professionnel peuvent affecter d'une manière ou d'une autre notre santé mentale. Comme le fait d'être en bonne santé physique, être en bonne santé mentale permet de se sentir bien dans sa peau. Cela permet également de profiter des joies de la vie et de s'épanouir. Quels sont les facteurs qui influencent la santé mentale? Quelles sont les habitudes à changer ou à adopter pour maintenir une bonne santé mentale? Professeur Daniel Okitundu, neuropsychiatre, est avec nous pour répondre à vos préoccupations. Professeur Daniel Okitundu, d'abord, c'est quoi la santé mentale?
Oui, il y a plusieurs définitions de la santé mentale, mais la définition la plus courte, c'est celle qu'on attribue à Freud, la capacité d'aimer et de travailler. Celui qui ne travaille pas ou qui travaille mal, ça signifie que cette personne-là n'est pas en bonne santé mentale. Celui qui aime mal, n'est pas en bonne santé mentale. Il y a plusieurs, une autre définition. Quand vous considérez le document élaboré par les Américains, on va vous dire que la santé mentale, c'est la réussite concomitante dans le domaine de l'amour, dans le domaine du travail, dans le domaine de la créativité, et puis il faut ajouter à cela la flexibilité dans la résolution des conflits. Alors la santé mentale comprend donc plusieurs dimensions. Qu'on peut résumer, il y a le bien-être émotionnel, le sentiment, les émotions doivent être agréables, doivent être positives, et puis il y a le bien-être psychologique, le fonctionnement de la pensée, tout ce qui se passe dans notre tête qui nous permet de réfléchir, de raisonner, il faut que tout se passe bien, et puis il y a le bien-être psychosocial, c'est-à-dire la relation à soi-même, la relation à l'autre dans son environnement. Et tout ça, c'est la santé mentale. En dessous de la santé mentale, il y a la santé du cerveau. Donc la santé mentale est un problème, c'est une émanation de la santé cérébrale.
Bien, professeur, d'après les informations reçues, les problèmes de la vie, les difficultés, le stress, les soucis d'argent, etc., ça affecte d'une manière ou d'une autre notre santé mentale.
Absolument, parce que quand nous avons des difficultés dans la vie, quand les choses ne marchent pas comme nous nous attendons, et tout ça c'est notre cerveau qui reçoit les informations, qui les traite et qui doit produire un résultat positif. Si le résultat n'est pas positif, de par le fonctionnement du cerveau, on ne peut pas être en bonne santé mentale. Donc tout ce que vous avez énuméré là a un impact sur le fonctionnement du cerveau.
Bien. Alors quels sont les facteurs qui influencent le plus souvent notre santé mentale?
Oui, dans l'approche dite biopsychosociale de la santé mentale, il y a le facteur biologique qui sont en rapport avec le fonctionnement du corps et du cerveau. Ça implique une bonne alimentation, ça implique la bonne santé cérébrale, donc il faut être bien soigné par rapport aux maladies du cerveau. Alors, vous avez le facteur psychologique qui sont liés à l'histoire même de notre vie, depuis notre conception, la relation avec la mère, la relation avec le père, la relation avec d'autres membres de famille, la relation dans le contexte social, professionnel ou de la société générale, la relation avec le système gouvernemental dans lequel on se trouve, donc voilà, sur le plan du fonctionnement psychologique. Donc il y a le facteur dit de personnalité, le facteur lié au caractère, au tempérament, ainsi de suite. Alors vous avez le facteur socio-culturel, la religion, les coutumes, la science, la technologie, donc toutes les contraintes de la vie sociale, voilà, tous ces éléments-là influencent notre santé mentale.
Par exemple, on voit certaines personnes en cours de route en train de monologuer, de parler sans à elles-mêmes. Voilà, on peut dire que ces genres de personnes sont dépassées par les problèmes.
Oui, mais quand on est en mauvaise santé mentale, on peut avoir des troubles de la communication, des troubles de langage. On peut commencer à se parler à soi-même. On peut commencer à répéter exactement ce que les autres disent de façon automatique. Donc, voilà. Cela montre bien que cette personne-là a perdu le contrôle sur lui-même et n'est plus contrôlée par son environnement. Parce que ce qui nous différencie de l'animal est que nos sentiments, nos émotions, nos comportements sont contrôlés par nous-mêmes et contrôlés par la société. Alors donc il y a des règles à suivre, il y a des comportements qui doivent correspondre aux normes, on ne devait pas se parler seul.
Mmh. Voilà, donc c'est une preuve que la personne a des problèmes au niveau...
Oui, ça montre que la personne là a un problème de santé mentale qui nécessite d'être identifié.
Voilà, il y a d'autres qui ont des problèmes d'argent, tout ça, des soucis... dans la vie, bon, ils préfèrent aller prendre prendre la bière, ils passent des temps dans les bars en train de s'essouler pour oublier un peu toutes ces difficultés de la vie.
Oui, mais en fait, notre équilibre mental dépend de notre fonctionnement cérébral et puis ça dépend de notre relation à tous les problèmes de la vie, de notre environnement social et culturel professionnel. Alors, quand on est stressé, ça signifie que on est confronté à des défis, on ne sait pas faire face, et quand on ne sait pas faire face, et on a besoin d'être équilibré, alors, et pour être équilibré, parce que le cerveau est mis sous tension, il y en a qui recourent à la consommation de drogues. C'est en fait une sorte d'automédication qui ne convient pas. Mmh. Il fallait d'aller boire pour chasser les soucis, comme les gens le disent. Vaut mieux consulter un psychologue ou un médecin psychiatre ou un neuropsychiatre.
Voilà. Or, dans notre société, on a l'impression que les gens, le travail du psychiatre ou du neuropsychiatre n'est pas très très valorisé.
Mais les psychiatres, au moins on connaît qu'il peut soigner ceux-là qu'on appelle fous, mais les psychologues chez nous, les gens disent, mais pourquoi on doit dépenser l'argent pour aller seulement causer avec les psychologues? Parce que nous savons que les psychologues, lui, ne prescrit pas de médicaments. Les psychologues, il intervient, il aide, il accompagne, il soigne par la relation et la communication. Il n'a d'autre moyen que la relation et la communication. Et chez nous, les gens disent, mais moi je vais dépenser l'argent pour seulement parler avec les psychologues. Vaut mieux aller à l'église voir le pasteur que voir les psychologues, alors que le psychologue a un rôle important qu'il peut jouer pour aider les gens à appliquer les règles d'hygiène nécessaires au bon fonctionnement mental.
Voilà. Alors, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les habitudes à adopter pour, n'est-ce pas, maintenir une bonne santé mentale malgré les difficultés de la vie, malgré les problèmes auxquels on peut être confronté?
Voilà. Il y a deux approches. On peut utiliser l'approche du comportement sanitaire. Le comportement sanitaire est en rapport avec six types d'activités de la vie humaine. Nous avons le sommeil. Donc, le sommeil, il doit être convenable et des durées suffisantes. On a l'habitude de dire 3 heures de sommeil, 3 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures de loisirs. Mais ça signifie que quand on a manqué le sommeil et qu'il faut le récupérer, il faut absolument le récupérer. Et le sommeil doit se réaliser dans des conditions sans bruit et sans lumière, parce qu'il ne faut pas laisser travailler son cerveau. Quand on dort, là, on ne se repose pas. Donc, le sommeil doit être réalisé dans des conditions favorables, excluant les bruits et la lumière, et puis des durées suffisantes. Quand on a manqué le sommeil convenable en termes de durée, il faut le récupérer quand l'occasion se présente. Donc, à part le sommeil, nous avons la sexualité qui doit être une sexualité responsable dans des cadres socialement et culturellement acceptés, en dehors du cadre du mariage ou d'autres cadres socialement, culturellement acceptés. La sexualité, quand elle n'est pas responsable, elle amène à beaucoup de facteurs de stress. À part la sexualité, vous avez la consommation de drogue. Alors, donc, il y a des substances qu'on appelle les substances psychoactives, qui modifie le fonctionnement de notre cerveau, qui modifie notre activité psychique. Mais nous savons qu'une substance comme l'alcool, c'est une drogue socialement valorisée. Il ne faut pas en abuser. Il y a la cigarette, il y a les chanvres, il y a cocaïne, héroïne. Donc, il faut éviter d'abuser de toutes ces substances-là. Actuellement, dans notre pays, on parle de Bombay. Voilà, avec tout ce que nous entendons. À part la consommation de drogue, vous avez la pratique de sport loisirs, des activités culturelles. C'est très bon pour le cerveau. Quand on a travaillé, on a besoin de se détendre, de se défouler pour permettre au cerveau de se refaire. Alors, vous avez la pratique des soins de santé. Il faut se faire soigner. Il y a des maladies dont on sait qu'ils affectent le fonctionnement du cerveau. Vous avez l'hypertension, vous avez le diabète, vous avez la maladie, l'anémie SS des enfants là. Donc pour toute maladie qui affecte notre corps ou notre cerveau, il faut avoir les soins qu'il faut pour protéger la santé mentale. Alors une autre approche consiste à avoir les éléments de base de notre fonctionnement psychologique. Vous avez émotions et sentiments, vous avez le penser, vous avez les comportements. Alors, il faut toujours, en tout lieu, en toute chose, avoir les émotions positives, le sentiment positif, le penser positif et avoir des comportements socialement adaptés, individuellement contrôlés et en tenant compte des normes.
Bien, on va accueillir deux auditeurs, Shadrach de Mbujimaï et Jonas Kabinda de Kananga. Nous parlons de la santé mentale, comment maintenir une bonne santé mentale. Shadrach, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Shadrach?
Oui, effectivement, j'ai un cas que je voulais vous relater de ma nièce. Ma nièce a un problème très sérieux. Il s'avère que à chaque problème, même un petit problème, c'est-à-dire à la maison, si vous la grondez, elle craque. C'est-à-dire vous êtes obligé, elle est obligée d'être accompagnée ou autour d'elle, il doit y avoir des personnes où à chaque fois où peut-être il y a un problème, elle craque, il faut la réanimer ça et là. Et dernièrement, c'était avec les événements de diplôme d'État. Il y a aussi sa jeune sœur qui n'a pas réussi. Et c'est toujours le même comportement qui arrive. Alors, nous étions en train de s'inquiéter pour voir dans quelle mesure je demandais à un médecin qui m'avait dit d'aller le voir. Alors, c'est ainsi que j'ai profité de l'opportunité, comme aujourd'hui l'émission cadre avec la santé mentale. Si l'invité peut un peu nous prodiguer des conseils, où nous pouvons partir, parce que là, c'est un cas que j'ai avec moi à la maison.
Et Shadrach, ça nous fait très mal. Shadrach, oui. vous dites que votre nièce a craqué après avoir échoué à l'examen d'État. Craquer, ça veut dire quoi? Comment elle se comporte comment?
Oui, c'est-à-dire quoi? À chaque événement, c'est-à-dire elle ne supporte pas ses émotions. Lorsqu'il y a un problème qui tique, ou par exemple on lui informe qu'il y a des faits, c'est-à-dire elle, vous devez la réanimer. C'est-à-dire, c'est le terme peut-être, je ne sais pas, un terme technique, peut-être l'invité me comprend facilement.
Elle perd connaissance, tout ça.
Oui, voilà, elle perd connaissance. Jusque, c'est-à-dire, s'il n'y a personne près d'elle, c'est-à-dire, on risque de la perdre.
D'accord, merci. Jonas Kabinda de Kananga, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, Daniel. Bonjour à l'invité, bonjour à tous les milliers des auditeurs qui nous écoutent.
Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la santé mentale?
Oui, merci, monsieur Jody. Le sujet est intéressant. J'ai quelques préoccupations. Bon, il y a des gens dans la société ou ici à Kananga qui passent des journées à réfléchir. Et la plupart, par exemple, ils ont perdu des êtres très chers sur lesquels ils espéraient. Et ils passent des temps à réfléchir à telle enseigne qu'ils en arrivent même à attraper ce que vulgairement on peut appeler l'acide gastrique. Donc quelqu'un, de temps en temps, l'estomac chauffe parce qu'il pense au jour le jour.
À cause des soucis, quoi.
À cause des soucis, tout à fait. Et les gens, par exemple, quand il faut l'encourager, le consoler, on lui dit non, il faut éviter de penser, il faut éviter de réfléchir. Et c'est ainsi que je pose la première question à l'invité. Lorsqu'on dit à quelqu'un de ne pas réfléchir, comment un être humain ne peut pas réfléchir tant qu'il est en vie? Comment va-t-il se dépasser des soucis et des problèmes qui les hantent tant qu'il est en vie, sans y penser? Et en plus, l'invité a souligné le fait que la drogue n'est pas un remède, si je peux dire ainsi. Mais effectivement, je vois beaucoup de jeunes gens, surtout ici à Kananga. Leur façon de s'échapper au problème, c'est aller s'enivrer. Mais le problème est là, le problème est penchant. On s'est enivré, mais on ne l'a pas résolu. Alors, quelle est la meilleure façon de résoudre les problèmes psychologiques, par exemple? Et pour finir, il y a quelqu'un que j'ai personnellement rencontré. Il avait des petits soucis. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire? Il a contacté un pasteur, effectivement, pour des conseils. Il a appliqué les conseils. Bon, ça semblait tenir, mais il va, pour finir, se pendre. Est-ce que se pendre, c'est une façon de mettre fin à nos soucis? L'invité va nous répondre. Et puis moi, je vais ajouter, c'est par là que je chute, parmi les méthodes scientifiques que le docteur a données, bon, moi, je demanderai au milieu des auteurs qui nous écoutent de développer aussi les stoïcismes, donc le courage, la fermeté, l'endurance pendant les moments difficiles. Il faut supporter la douleur, mettre en tête que ce qui m'est arrivé, on n'est pas le premier. Il y en a qui ont déjà vécu ça. Et peut-être que dans ce sens-là, on peut maintenir le moral haut et éviter des problèmes qui peuvent nous conduire à la mort. Merci, monsieur Jody. Bonne journée.
Bien, merci, Jonas. Platini Mbombo de Mbandaka, bonjour.
Jody, bonjour. Je salue l'invité.
On vous écoute.
Voilà. Merci beaucoup, Jody. Je pense que vous avez bien dit, comme l'invité a déjà parlé. Je pense que la thématique est très importante. La thématique est très importante et c'est aussi louable. Et avant de parler, j'ai témoignage ici de la ville de Mbandaka, parce qu'on a publié les résultats de l'examen d'État. Je pense que c'est à peine ici. Je crois qu'il y a deux ou trois jours. Mmh. Et une fille qui trouvait que son nom ne figurait pas sur la liste, donc il a échoué, apparemment.
Oui.
Et cette fille-là, je dis, je vous confie, moi, elle a pris l'alcool jusqu'à ce qu'on ne comprend rien. Elle a pris l'alcool qu'on dit à Guéné.
Elle est allée s'enivrer avec la Guéné.
La Guéné, vraiment, je dis, elle a pris l'alcool jusqu'à il est mort.
Oh là là.
Et pour lui dire que non, comme elle a échoué, donc ça passait tout ça. Elle a pris la gaine au moins deux bouteilles de eau vive, je vais vous dire. Si on fait les calculs, les tomates, il a, quand on voit les tomates, il a les petits états, il a tout ça. Si on fait les calculs, elle a pris au moins 20 petites tomates, il a tout ça. Et quand elle a terminé, le vertige est arrivé, à la fin des comptes, cette fille-là, aujourd'hui, là,
elle est morte.
Là, on l'a enterrée.
Oh là là.
Elle est morte. Elle est morte maintenant, là, d'un personnage, parce que je la connais très bien. Et deuxième chose, il y a aussi un papa ici dans la ville, hein, mais sa femme lui-même propose qu'on fasse faire la divorce. Ce papa-là, c'est ce vieux, comme elle était amoureux, donc amoureux avec sa femme, tout ça. Et lui, il a connu aussi la mort à cause de ça. Il a pris de l'alcool, il a pris de bombes, là, ce qu'on dit. Et jusqu'à ce que.
Il en est mort.
Il est malade, il y a toi, tout ça, il est aussi mort. Donc ça, c'est les deux petits témoignages que je connais, et je ne sais pas si ça fait partie de la vie de Mandaka. Alors, ce que moi, je vais quand même demander à l'invité, parce que ce sont des choses, nous tous ici, il y a aussi des choses que souvent, on est fait mal à l'aise, on est fait traumatisé, comme moi aussi, je suis là. Il y avait des problèmes, là, tout ça, mais maintenant, là, c'est bien à dire, quand même, à accepter que je sois comme ça. Il y a aussi des choses, quand on raisonne, ça fait très mal. Maintenant, dans le problème qui est vraiment choquant, que tu as un problème là très sérieux, que tu n'arrives même pas à se maîtriser toi-même, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre dans le corps, il faut aller sur sa main, passer par là, il faut aller, bon, je ne sais pas là moi-même, qu'est-ce qu'il faut?
Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Merci beaucoup. On va donner la parole au professeur Daniel Okitundu. Professeur Shadrach de Mbujima y a posé la question, il dit sa nièce ne supporte pas les chocs, alors elle a perdu à l'examen d'état, mais elle pique tout le temps des crises, alors on craint de la perdre, qu'est-ce qu'il faut faire pour elle?
Oui, je commence par saluer tous les auditeurs qui m'ont salué, j'apprécie toutes les questions qui ont été posées. À la question de Shadrach, il faudrait considérer que la personne dont elle parle là a un problème de contrôle émotionnel. Et quand on a un problème de contrôle émotionnel avec un dysfonctionnement au niveau du corps, il faut absolument, s'il y a un psychologue, voir le psychologue, et si le psychologue trouve qu'il ne peut pas résoudre le problème, il faudrait consulter le médecin. Dans l'idéal, voir le médecin neuropsychiatre, psychiatre, ou même le neurologue ou le médecin tout court. Dans le cas d'espèce, il faut être sûr qu'il y a des substances chimiques que nous avons dans notre corps, notamment le calcium et le magnésium, sont en quantité normale dans son corps. Parce que s'il y a un déficit du magnésium dans le corps ou un déficit du calcium dans le corps, on peut avoir des difficultés pour contrôler ses émotions et en situation où on est frustré, on peut réagir de façon non proportionnelle à la situation avec tous les risques de dysfonctionnement des organes. Donc il faut absolument aller à l'hôpital. On doit vérifier la quantité du calcium dans le sang, la quantité du magnésium dans le sang. C'est une personne qui doit être accompagnée par un psychologue et le cas échéant, qui doit être soignée médicalement. Voilà. Donc, faut qu'on l'amène à l'hôpital et qu'on fasse ces examens-là. On doit même, dans la mesure du possible, examiner le fonctionnement électrique de son cerveau. Voilà ce que je propose comme solution à M. Shadrach.
Et Jonas nous a dit que là-bas à Kananga, il y a des gens, après avoir perdu des êtres chers, elles réfléchissent trop, elles ont des pensées, elles sont perdues dans leurs pensées, les soucis, et puis ça cause des ce qu'on appelle souvent estomac, nasobe l'estomac, j'ai des problèmes au niveau de l'estomac. Alors d'autres préfèrent aller s'enivrer pour échapper aux problèmes de la vie. Et il a parlé aussi d'autres qui ont, il a donné un cas d'une personne qui est allée voir son pasteur qui avait des problèmes. Et après, cette personne s'est pendue. Elle est allée se mettre la corde au cou pour en finir pour mettre fin à sa vie. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ses préoccupations?
D'abord, le dernier élément, là, les préoccupations de Jonas sont très pertinentes en rapport avec la santé mentale. Et le cas qu'il nous présente nous montre les conséquences les plus graves des problèmes de santé mentale non prises en charge. Ça peut conduire au suicide. Vous voyez ce que ça fait? C'est-à-dire, la personne qui n'a pas obtenu de l'aide, qui n'a pas été soignée, qui n'a pas eu le traitement qu'il faut de santé mentale, si cette personne-là est déprimée, et ayant perdu le sentiment de sa propre valeur, ayant une tristesse très profonde, avec auto-dévaluation, auto-dépréciation, avec sentiment d'être au bout du rouleau, on peut arriver au suicide. C'est l'une des conséquences la plus grave des problèmes de santé mentale non prise en charge. Ça signifie que si dans une société, on ne prend pas en compte le problème de santé mentale, qui sont d'ailleurs, en termes de morbidité, parmi les problèmes de santé les plus fréquents. Parce que dans une communauté, on peut avoir au moins 30% de la population qui peut avoir des problèmes de santé mentale d'origine émotionnelle. Et en situation de stress, parce que le stress défie nos capacités à faire face avec modification au niveau du corps et de l'esprit. Et si le stress n'est pas géré de façon convenable individuellement, et s'il n'y a pas une structure qui offre aux gens la possibilité d'être pris en charge, on peut arriver à des situations beaucoup plus dramatiques comme le cas nous présenté par Jonas. Donc les suicides est l'une des conséquences dramatiques plus grave des problèmes de santé mentale non pris en charge, notamment dans le cas de la maladie qu'on appelle la dépression.
Voilà.
Donc il faut absolument que nous puissions mettre en place, comme nous avons une politique de soins de santé basée sur les soins de santé primaires, il faudrait que à tous les niveaux du fonctionnement de notre politique des soins de santé primaire, n'est-ce pas, que les gens aient la possibilité d'obtenir des soins de santé mentale. Cela implique qu'il y ait des médecins formés, qu'il y ait des psychologues qui interviennent, qu'il y ait des travailleurs sociaux formés qui interviennent dans ce domaine, et ça doit être quelque chose qui doit dont l'organisation doit être assise communautaire. Donc il faut que toutes les communautés soient informées de l'existence de problèmes de santé mentale qui d'ailleurs nous empêchent de nous développer.
Professeur,
parce que dans la classification des problèmes de santé mentale, la première catégorie de problèmes de santé mentale, c'est tout problème d'épanouissement personnel. Quand les gens ne sont pas épanouis dans leur vie, ils ont des problèmes de santé mentale qui nécessitent d'être pris en charge. Et après ça, vous ajoutez les différentes détresses psychologiques liées aux différents événements pénibles de la vie. Et la troisième catégorie, ce sont les maladies mentales qui sont connues médicalement avec des modalités de traitement bien connues, et ça doit être l'affaire de médecins spécialistes dans le domaine de la santé mentale ou des infirmiers spécialistes dans ce domaine impliquant le travail des psychologues.
Bien, comment maintenir une bonne santé mentale? On en parle avec le professeur Daniel Okitundu, un neuropsychiatre. Professeur Platini de Mbandaka nous a parlé des deux cas. Il y a une jeune fille qui a échoué à l'examen d'État. Alors, elle est allée prendre deux mesures d'aguené. Elle a pris les boîtes des tomates, là, deux mesures d'aguené, et puis elle en est morte. Et puis, il a aussi évoqué le cas d'un monsieur dont la femme réclamait le divorce. Ce monsieur était tellement amoureux, et il voulait pas perdre sa femme. Bon, il est allé prendre aussi une grande quantité d'alcool, et la personne en est décédée. Donc, cela démontre qu'il y a, des sérieux problèmes de prise en charge, des problèmes psychologique, mental dans le pays.
Oui, voilà, c'est comme le cas de nous présenter par Jonas, pour la fille là qui a échoué aux examens d'État. Voilà, elle était tellement stressée que pour maintenir son équilibre psychique ou son équilibre mental, elle a dû recourir à l'alcool. Mais ce qu'elle a eu comme comportement là, en prenant des doses dangereuses, excessives d'alcool, on appelle ça équivalent suicidaire. En fait, si on avait eu le temps ou la possibilité de parler avec elle, peut-être derrière ce comportement-là, il y avait l'idée de se donner la mort, ou alors il y avait le besoin de se sentir à l'aise et du point de vue psychique en prenant une drogue, mais elle en a subi les conséquences parce qu'elle a fait l'overdose. Elle a pris une dose excessive et dangereuse d'alcool et ça a conduit à la mort. Mmh. Le cas du policier qui était sentimentalement stressé, donc il était très stressé, il n'a pas pu obtenir un accompagnement. Dans le cas d'espèce, il faut qu'il y ait un dispositif général qui aide les gens qui ont des problèmes comme ça.
Professeur, voilà, donc on peut dire que
un accompagnement, même au téléphone,
professeur,
ce que nous faisons, même au téléphone. Vous vous souviendrez, la fois passée, on a soulevé ce problème. Il faut qu'on arrive absolument à mettre en place un système d'accompagnement des gens qui ont des problèmes de santé mentale, ne fût-ce que pour les orienter ou de les accompagner psychosocialement, que cela soit possible par le téléphone. Et je pense que c'est possible. Et les autorités qui nous écoutent, notamment les autorités du ministère de la Santé, devraient faire quelque chose dans ce sens-là. Il y a lieu de travailler avec le réseau de communication pour que cela soit possible. Voilà. Et ça peut nous éviter des situations dramatiques comme ça, dans une certaine mesure.
Mais donc on peut comprendre par là que même une déception amoureuse affecte sérieusement la santé mentale.
Mais quand vous parlez de la déception amoureuse, vous savez que être aimé et aimer, ça fait partie des besoins fondamentaux de la personne humaine. Et vous savez que nous sommes là, c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont aimés et qui se sont aimés. Donc c'est une dimension fondamentale de la vie. C'est le domaine le plus fondamental du fonctionnement psychique. Et dans d'autres cas, on parle des crimes passionnels. Mais quand on est déçu dans le domaine comme de l'amour, vous voyez ce que ça peut donner. C'est un domaine fondamental de la vie psychique parce que sur le plan psychique, on parle de ce qu'on appelle fonction vitale. Ok, parmi ces fonctions vitales-là, vous avez le sommeil, vous avez l'alimentation et vous avez la sexualité. La sexualité implique l'amour. Et parmi les besoins psychosociaux de la personne humaine, vous avez le besoin d'aimer et d'être aimé. C'est fondamental. Quand on a des problèmes par rapport à ces besoins, on souffre psychologiquement, on souffre mentalement.
Bien, professeur Daniel Okitundu, neuropsychiatre, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. On va accueillir tout à l'heure le professeur docteur Ali Njukenji, neuropsychiatre au CNPP. Avec vous, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci, excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup et bonjour à tous les auditeurs.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Comment maintenir une bonne santé mentale? On en parle aujourd'hui. Docteur Ali Njukenji, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes... C'est jeudi plutôt. Vous êtes neuropsychiatre.
Jeudi, excusez.
Ouais, au CNPP. Bienvenue dans cette émission. On va accueillir tout d'abord Benjamin qui nous appelle des Kananga. Bonjour Benjamin.
Ok. Bonjour monsieur.
Daniel Kachama. Bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute, Benjamin.
Merci beaucoup, Monsieur Jody, pour m'avoir passé la parole. Moi, je dirais que il est vraiment hors question pour qu'on puisse maintenir sa bonne santé mentale, Monsieur Jody, parce que j'ai suivi le premier invité détailler les différents facteurs qui concourent au manque d'une bonne santé mentale, Monsieur Jody. Mais parmi ce qu'il faut faire pour garantir sa bonne santé, j'ai suivi les professeurs il faut avoir une bonne alimentation. Mais Monsieur Jody, comment est-ce qu'on peut avoir une bonne alimentation si on n'a pas d'argent? Supposons que les problèmes qui affectent la mentalité d'une personne aujourd'hui, c'est le problème d'avoir à boire et à manger, et qu'on n'a pas d'argent. Vous pensez qu'on peut se garantir une bonne santé mentale? Je pense non. J'avais un exemple ici à Canard, Monsieur Jody. Et récemment, là, j'ai vu une femme qui était devenue folle. Folle pourquoi? Parce qu'elle était mariée et elle avait 5 enfants. À un moment donné, son mari est tombé malade, il a été amené à l'hôpital. Quelle que soit la prise en charge médicale, l'homme est fini par partir. Et la femme est restée avec 5 enfants. Elle est restée avec 5 enfants là. La famille de la personne, de l'homme qui était, du mari qui était décédé là, et s'est pris sur la femme et a vendu la parcelle de leur propre fils. Et maintenant, on a même ravi les enfants de cette femme-là pour dire que la femme est sorcière. La femme s'est retrouvée en dépendance. Ni enfant, ni mari.
Ni parcelle, elle s'est retrouvée dans la rue.
Exactement, monsieur Jody. Mmh. Et 2 semaines après, la femme est tombée gravement malade. Et quand on l'a amenée à l'hôpital, quel que soit ce que les corps soignants ont fait, la femme était devenue folle. Elle marchait en route, ici en train de ramasser les soins passés par là. Et on a tout fait pour qu'on puisse ramener la femme à la normale. Vraiment, c'était impossible. Alors la question que moi je voudrais un peu poser à nos différents invités, est-ce que déjà une femme ou une personne dans une situation pareille, est-ce qu'il y a vraiment des centres de prise en charge qui peuvent faire en sorte qu'on puisse garantir une bonne santé? Une femme, c'est là. Parce qu'elle est devenue une véritable folle et je pense qu'il y a vraiment du désespoir pour elle. Est-ce qu'il y a vraiment des centres spécialisés qui peuvent permettre à ce qu'on puisse assurer la santé mentale des personnes qui se retrouvent dans des situations comme ça? Voilà au moins la préoccupation que j'avais, mais c'est jeudi. Merci.
Merci, Benjamin. Docteur Ali, vous avez la parole.
Merci beaucoup pour l'intervention de l'auditeur. Il a parfaitement raison, mais la prise en charge tiendra compte de son histoire. Et dans ce qu'il raconte là, il y a déjà une lueur d'espoir. Parce qu'il raconte l'histoire, dire que la femme est devenue pour telle cause. Donc, lui est capable déjà d'identifier les facteurs qui auraient concouru à l'état que la femme présente. Maintenant, la deuxième phase, c'est le fait de voir comment est-ce qu'on pourra accompagner cette femme. La première des choses, comme nous avons une approche biopsychosociale, il y a la femme qui a un problème, non pas sur sa biologie, non pas sur son corps, sur son cerveau, mais il a un problème psychosocial. Il a un problème social, le fait de perdre son mari, le fait de perdre les biens. Et ce problème social a une répercussion sur sa psychologie. C'est l'état qu'il présente, les pensées négatives, envie de mourir et les troubles qu'il présente. Donc cette femme, dans un premier temps, doit s'appuyer sur la biologie. Le fait qu'il doit s'appuyer sur la biologie, comme l'enfant qui a pris la gaine parce qu'il avait un problème, parce qu'il a utilisé la biologie. À ce moment-là, au lieu d'aller consommer n'importe quoi, il a besoin de médicaments. Ça, c'est la première étape. Il aura des médicaments pour calmer son cet état. Il commence à déambuler, on va lui donner les médicaments, il va se calmer. Deuxième étape, maintenant, c'est l'intégrer les aspects psychosociaux qui étaient à la base de son problème. Elle a perdu son mari. Elle aurait aimé avoir son mari. Donc, sa prise en charge tiendra compte par le fait qu'elle devra accepter cette situation parce qu'il n'y aura pas d'effet retour. Le mari ne va pas ressusciter. Il est déjà mort, c'est passé. Maintenant, elle doit être capable de pouvoir, on doit l'accompagner pour pouvoir accepter sa situation et continuer à vivre. Et c'est ça l'élément qu'on appelle l'élément la résilience. C'est-à-dire, face à une situation difficile, il faut toujours faire quelque chose pour pouvoir rebondir. Et au cours d'un accompagnement psychologique, on peut aider cette femme à recouvrer son état d'avant. Et parfois, la résilience, non seulement retrouver son état d'avant, mais aller même au-delà de ce qu'il a été avant le stress qu'elle a connu.
Voilà. Donc professeur, il y a certains qui proposent que pour gérer ces genres de situations et maintenir une bonne santé mentale, mettre en place dans les différents quartiers ou communautés des centres où les gens se retrouvent pour partager leurs problèmes, parler aux autres, entendre aussi les autres qui avaient connu les mêmes difficultés et qui ont pu s'en sortir. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet?
Effectivement, ça fait partie de ce qu'on appelle des thérapies communautaires. Vous savez, même dans nos cultures, il y a des thérapies qui ont existé. Je vous donne un exemple. Vous voyez une femme qui perd son mari, veuve. Et tout autour, vous allez voir, on met les veuves ensemble pour pouvoir l'accompagner. C'est tout à fait pour qu'elle puisse revenir à la vie d'avant, d'accepter cette situation et de continuer sa vie. Donc, au niveau communautaire, il y a la possibilité de pouvoir organiser la communauté en mettant des centres d'écoute où que chacun, quand il a un problème, il peut aller là-bas pour trouver une solution. Mais il faudrait que la personne soit aussi capable d'identifier son propre problème pour que ces gens-là, une fois formés, ils seront à mesure de pouvoir identifier le problème que les gens pourront leur poser. Parce que la particularité avec les problèmes de santé mentale, c'est ce qu'on appelle la lexithymie. Beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé mentale manquent des mots pour pouvoir exprimer leur malaise, leur mal-être sur le plan santé mentale. Mmh. Et généralement, on utilise le corps, les manifestations sur le corps. On peut avoir des maux de tels comme le prof a dit tantôt, le sommeil, on peut manquer de sommeil, on peut avoir des maux de tels sur le corps, on peut perdre l'appétit de manger, on peut même perdre l'appétit sexuel et ainsi de suite. On a des signes négatifs. Donc, c'est cette alexithymie qui fera que les personnes pour pouvoir accompagner les gens qui souffrent, qui ont des problèmes de santé mentale, devaient être capables de transcender cette alexithymie pour bien les accompagner.
Bien, prenons le cas de quelqu'un qui a perdu son travail. Alors, il n'a plus d'espoir. Bon, la personne tombe dans la dépression et se pose beaucoup de questions. Comment je vais vivre? Comment je vais payer le loyer? Comment je vais m'occuper des enfants à l'école? Comment on va vivre au quotidien? Comment aider une telle personne?
Mais c'est le quotidien. Je prends un exemple clair qu'on est en train de vivre actuellement. Je vois des enseignants qui ont été désactivés. Un monsieur qui, tout d'un coup, on lui dit qu'on va plus les payer. Mmh. Moi, en tant que médecin, ça ne veut pas dire que je prendrai mon argent pour le payer. Mais l'accompagnement serait de pouvoir comment gérer cette situation. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut pouvoir l'accompagner. Parce que nous, on a tendance à croire que accompagner quelqu'un, c'est trouver la solution à son problème tel qu'il le présente. Non, ça, ce n'est pas. Sinon, on risque de ne rien faire. Parce que vous aurez tout le monde. Parce que si vous recevez 10 malades, 10 personnes qui ont des problèmes de santé mentale, sachez que vous ne saurez pas résoudre les problèmes à chaque problème de manière telle qu'il le veut. Donc, il faut amener la personne à vivre malgré cette adversité. Donc, il aura ce problème, peut-être qu'il ne trouvera pas la solution à son problème tel qu'il le veut, mais la vie doit continuer. C'est un peu ce qu'on appelle le fair play quand après avoir perdu un match, la vie continue, il y a d'autres challenges sur lesquels il faut s'appuyer. Et s'il y a maintenant la possibilité derrière ça, parce que tout ne se gère pas par les médicaments, quelqu'un qui a été désactivé, vous n'allez lui donner quel médicament? Il y a là l'approche psychosociale et des mises. La possibilité est de mise, à moins qu'il ait présenté d'autres problèmes après. Il perd son travail, il faut qu'il soit renforcé, ou peut-être trouver un autre travail, ou peut-être se révaloriser pour qu'il puisse retrouver son état d'avant, et sinon même plus aller au-delà de ce qu'il a été avant. Il y a des gens qui ont perdu un travail aujourd'hui, et après ils trouvent un travail mieux que ce qu'il avait avant.
Bien. Ah, mais professeur, dans d'autres pays, on trouve les personnes qu'on appelle les assistants sociaux. Vous pouvez avoir vos problèmes, vous allez là-bas parler de vos problèmes. On peut également vous apporter du réconfort. Pourquoi ce n'est pas souvent le cas ici?
Mais c'est ce que j'ai dit. Les assistants sociaux, ils sont dans la communauté, ils sont dans tous les milieux des pays. Et chez nous, c'est ce qu'on appelle l'exemple qu'on a dit tantôt, des assistants sociaux, même dans la communauté. Si on organise la communauté, il y a quand même une lueur dans les communautés, mais c'est réduit à quelque chose. Par exemple, quand on prend les relais communautaires, vous savez, au ministère de la Santé, c'est bien organisé. Il y a des relais communautaires. Mais on a tendance à les utiliser seulement lorsqu'il y a des campagnes de vaccination. Maintenant qu'il y a eu la maladie, la pandémie à Covid-19, ils étaient là pour sensibiliser les gens. Oui, on peut sensibiliser les gens seulement pour un aspect de la Covid. Mais au-delà, mais les gens qui ont présenté la COVID, ils ont aussi, leur santé mentale était aussi perturbée. Mais vous allez vous rendre compte que on s'est occupé plus de ça, sans tenir compte des répercussions que cela pouvait avoir sur le plan de santé mentale. Donc, l'organisation est là. C'est question de capacité ces gens-là pour pouvoir leur donner autre chose de plus en rapport avec la santé mentale. parce que vous savez que la santé mentale, c'est un parent pauvre dans notre pays. Et la journée mondiale de cette année, le thème, c'était le respect des droits. Vous savez, que ce soit nous, les experts en santé mentale, il n'existe pas de législation en santé mentale. Moi, je peux être sur la route, je vois un malade mental qui casse. Je ne peux même pas intervenir parce que l'État ne me garantit pas. La loi n'existe pas. L'autre aspect, nos malades, vous allez voir par exemple, toutes les maladies, certaines maladies, le VIH aujourd'hui, tous les médicaments, les ARV sont gratuits. Mais nos malades qui ont déjà des problèmes, mais les psychotropes, ça coûte cher. Mais pourquoi, au nom de cette journée, à l'occasion de cette journée, on doit respecter les respects de nos malades? Pourquoi ne pas rendre aussi accessibles les psychotropes pour qu'on prenne en charge convenablement nos patients?
Bien. Aujourd'hui, dans notre pays, beaucoup de gens préfèrent s'adonner à la prière face aux problèmes de la vie, les difficultés, les soucis. Bon, les gens préfèrent aller prier ou voir le pasteur, le prêtre, l'imam pour parler de leurs problèmes et trouver consolation auprès du Seigneur.
Ben oui, c'est simple, c'est facile à dire. Moi, je donne un exemple simple. J'ai reçu 4 personnes. Une personne, quand elle a des problèmes, il va côtoyer, il va aller boire dans un bistrot au coin. Le deuxième, il va réciter son chapelet devant la grotte des Marais. Le troisième, il va aller côtoyer les putes. Chacun va croire que... Mais le quatrième, il peut aller à l'église, prier, ou à la retraite. Mais vous allez vous rendre compte que tous ces gens-là, personne ne parle de son problème. C'est-à-dire, j'ai un problème, je fais autre chose à la place. En réalité, c'est un mode de coping, comme on dit. C'est un mode de coping. C'est-à-dire, j'ai un problème, je n'ai pas encore résolu le problème, je fais quelque chose pour diminuer un peu la tension par rapport à ce problème. Or, si on est chrétien, l'idéal aurait été, dans la gestion du stress, quand je vais gérer mon problème, qu'on sente la différence entre un chrétien et un non-chrétien. C'est-à-dire, un chrétien, il va chercher ce qu'on appelle, par exemple, la sublimation comme mécanisme de défense. C'est-à-dire, je fais ce qui est culturellement accepté. Vous voyez, certains enfants, quand ils sont stressés, ils vont chanter, par exemple, à la chorale, quand ils ont des stress. Un autre peut faire autre chose, mais qu'il soit accepté par la société et la culture. Mais cela ne permet pas à la personne de résoudre le problème. La résolution des problèmes, c'est affronter le problème et se mesurer au problème et se dire qu'est-ce que je peux faire face à ce problème. Si je peux aller au-delà, je m'y mets. Si je sais que je suis incapable d'affronter ce problème, je me récompense. Mais à ce moment-là, je ne dois plus continuer à souffrir parce que je n'ai pas pu trouver la solution à mon problème. C'est ça le fair play en réalité.
Oui, docteur, il y a certaines personnes qui préfèrent gérer leurs problèmes. Ils se disent, bon, je vais aller voir un psychologue. Bon, il va pas trouver des solutions à mon problème. Je préfère gérer. Je gère mes problèmes et voilà.
Ah oui, là c'est simple. C'est facile à dire. C'est pourquoi j'ai dit, c'est ça un mot de coping. Ça peut être le type résolution de problème. Ça peut être des types émotionnels, tels que j'ai dit, je fais les 100 pas, je vais prier. Ça peut aussi être des types, la recherche et du soutien social. Il y a des gens, chaque fois qu'il a un problème, il va se confier chez quelqu'un, mais il reste à savoir, quand il se confie à quelqu'un et qu'il lui prodigue des conseils, il lui propose quelque chose, est-ce qu'il le respecte ou il suit ce qu'on lui dit? Là, il y a deux types. Il y a des gens qui suivent, qui peuvent suivre ce qu'on leur dit, et d'autres, c'est seulement par formalité qu'il va exposer son problème sans pour autant intéresser qu'on lui aura dit. Tout ça, ce sont des mots de coping. Mais l'idéal aurait été la résolution du problème. Les deux autres là, ce sont des mécanismes d'évitement. Mais on évite de manière un peu sage. Mais le grand problème, les gens qui ont l'impression qu'ils règlent et gèrent leurs problèmes eux-mêmes, ce sont les gens qui présentent ce que je viens de dire, la leucémie. Et ce sont des gens qui vont présenter beaucoup de troubles somatoformes, c'est-à-dire des plaintes physiques. Mal à la tête, mal au dos, mal partout. Mais la particularité, c'est quoi? Ils pourraient aller à l'hôpital, on va beau faire tous les examens, on ne trouvera rien. C'est comme si un chrétien qui vous dirait, on cherche Jésus dans les tombeaux alors qu'il est déjà ressuscité. On va s'attacher sur le corps alors que le problème est dans son esprit, dans son âme. Et c'est ça le siège même de la santé mentale. Donc, l'idéal aurait été non pas de garder le problème parce que le fait de garder, et ça reste dans une partie de son corps. À ce moment-là, on aura des manifestations du corps. Le fait de garder, c'est quand les gens disent, par exemple, les Français disent même quand on jette comme ça, ça va dans les oublier, comme s'il y avait diminutif des oublis.
Oui, docteur Ali, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de gens qui ont des maladies psychosomatiques. On peut dire que c'est lié à la santé mentale, directement lié à la santé mentale.
C'est ça, c'est ainsi que quand ils vont même à l'église, on leur dit que ce sont parfois les maladies que les médecins ne guérissent pas. C'est ce que j'ai dit, c'est l'image que j'ai faite même de dire qu'on cherche Jésus dans les tombeaux alors qu'il est déjà ressuscité. Les gens vont s'affoler sur le corps. C'est ça les maladies psychosomatiques. Ils vont rechercher les problèmes causes sur le corps. Quand on ne trouve pas, quelqu'un devient encore anxieux. Moi, j'ai mal à la tête, on a fait les examens, on ne trouve rien. Même le scanner, on n'a rien trouvé. Effectivement, parce que on interroge le corps alors que le problème n'est pas sur le corps. Le problème est dans l'âme, dans son esprit, dans la santé mentale. C'est ça le nœud du problème.
Bien. Docteur Ali Njoukendji, neuropsychiatre au CNPP, merci. On aura l'occasion de revenir sur cette question qui intéresse pas mal les gens. Les gens ont trop de problèmes dans la vie tous les jours. Alors, ils ont besoin d'être assistés. On vous retrouvera une prochaine fois pour poursuivre ces échanges. Merci docteur, excellente journée et à la prochaine.
Pareillement, merci pour les échanges.
Bien, on va suivre les informations tout à l'heure et après, on va se retrouver pour aborder le deuxième thème de cette émission. On va parler des tracasseries policières sur nos routes, sur les artères. On en parle tout à l'heure à partir de 11h05.